génocide a été une telle secousse sismique au Rwanda qu'après il y a eu la prise de pouvoir par le Front patriotique rwandais qui a entrepris de reconstruire le pays sur de nouvelles bases, disons de nier ou de dépasser les identités ethniques et d'essayer de construire une citoyenneté rwandaise, ce qui veut dire qu'on ne parle plus des Hutus et des Tutsis, on parle des citoyens rwandais. Alors, est-ce que ça signifie que les gens, dans leur âme, dans leur esprit, ont oublié ces catégories ethniques? Ça, c'est très difficile à dire parce qu'il est pratiquement interdit d'en parler. Donc, on voit la construction d'un pays, la construction d'une identité citoyenne. Est-ce qu'il y a une cohabitation entre les Hutus et les Tutsis? C'est un sujet plus tabou qu'autre chose. Tabou qui fait qu'on ne parle pas de l'identité ethnique parce qu'on doit regarder plus loin vers les enjeux du développement, de la progression, de l'économie, etc. Mais peut-on dire pour autant que parce qu'on n'en parle pas, on n'y pense pas, que les Tutsis ne ressentent pas, surtout en ces jours anniversaires, le chagrin, la rancœur, tout ça? Bien malin qui pourrait le dire, et moi je crois que les gens ressentent encore ont encore des sentiments extrêmement forts, et que les Hutus n'ont pas le désir de reprendre le pouvoir ou d'avoir une sorte de revanche, on ne peut pas en parler, mais qui sait ce que les gens pensent et ressentent au fond d'eux-mêmes.
Et justement, j'allais vous demander, comment est-ce que vous voyez ça, à votre avis, comment les Rwandais vivent avec ce souvenir qui est encore très présent, évidemment?
Très difficile parce que, par exemple, des psychologues qui travaillent au Rwanda disent qu'il y a deux choses. Il y a un très grand calme dans le pays, il y a une sécurité publique tout à fait remarquable par rapport à beaucoup de pays africains, mais qu'il y a énormément de violences domestiques, de violences intrafamiliales et aussi de maladies psychosomatiques. Comme si les gens intériorisaient des conflits, des rancœurs, des chagrins, ils les intériorisent, ils ne peuvent pas en parler. Et alors ça se traduit par des violences familiales, des traumatismes, des dépressions, des fragilités psychiques qui sont tout à fait compréhensibles. Et je me rappelle toujours que peu de temps après 1994, il y a eu un colloque à Kigali où un Zurov, qui était un Israélien survivant de la Shoah, était venu au Rwanda et il leur avait dit: vous devez savoir que les choses ne vont pas s'arranger et que plus le temps va passer, plus ce sera dur, ça prendra d'autres formes, mais ça ne va pas guérir en l'espace d'une génération. Et cette triste prédiction, malheureusement, se vérifie.
Et vous me disiez tout à l'heure, donc, qu'il y a un véritable tabou qui est quasiment institutionnalisé autour du souvenir du Rwanda. Est-ce que, du coup, il y a un décalage entre la population et les autorités qui essaient de pousser les gens à ne pas en parler absolument?
Mais apparemment non, parce que en fait, on peut en parler durant un mois, c'est le mois d'avril chaque année, qui est le mois du souvenir, où il y a des commémorations, des cérémonies. Et alors donc, pendant ce mois-là, les émotions se libèrent, il y a beaucoup de cérémonies qui se passent, et après, c'est fini, chacun est censé reprendre le cours normal de sa vie. Mais encore une fois, ce que les gens ressentent au plus profond d'eux-mêmes, il est très difficile de le savoir, parce que les Rwandais s'expriment difficilement, il n'est pas très, disons, très conseillé de leur poser beaucoup de questions à ce sujet.